Vous écoutez l'épisode numéro 10 du Saint-Pierre. Cette semaine, je reçois Anne-Marie Lozic. Mon nom est Éric Saint-Pierre, musicien devenu entrepreneur spécialisé dans l'univers du numérique. Chaque semaine, je pars à la recherche de gens extraordinaires pour vous partager leur entreprise et leur passion. Mon objectif au travers de ces épisodes est de vous inspirer à vous lancer tête première dans ce qui vous passionne. Laissez donc leurs histoires vous inspirer et demandez surtout pas la permission à personne pour vous lancer. Bienvenue à ce nouvel épisode en collaboration avec baronmag.com. Votre contenu quotidien sur les affaires, le design, la culture d'ici et d'ailleurs. N'hésitez surtout pas à aller suivre baronmag.com sur Facebook, Twitter ou Instagram. Cette semaine, j'ai eu l'immense privilège de parler à nul autre que Anne-Marie Lozic. Je dois avouer évidemment que j'étais un peu nerveux et intimidé, mais Anne-Marie a été très généreuse et fort sympathique. Présentement très occupée avec Vanessa Media à Los Angeles, on a quand même réussi à se parler par téléphone. Son entreprise a pris énormément d'expansion dans les dernières années. Elle est sur le point présentement de lancer une nouvelle chaîne, entre autres, et elle a même des projets en chantier avec la chaîne HBO. J'ai pas pu avoir trop de détails sur son gros projet qui s'en vient, qu'elle va annoncer sous peu, mais lors de notre entretien, on a tout de même réussi à parler de son ascension dans le monde des médias en commençant par sa compagnie de production. On a parlé bien sûr de la différence, l'immense différence, dois-je dire, qu'il y a entre la production et la diffusion. Pourquoi elle se définit comme entrepreneur et non femme d'affaires et pourquoi elle n'aime pas ce terme. Et je dois avouer que la finale de notre entretien, eh bien, c'est elle qui a eu le dernier mot et possiblement que c'est elle qui a eu la meilleure définition de ce que devrait être l'état d'esprit d'un entrepreneur. Alors, je vous laisse avec l'unique Anne-Marie Lozic. Anne-Marie Lozic, bienvenue à l'émission. Donc, est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer comment est-ce que Anne-Marie Lozic est arrivée à bâtir Vanessa Media?
Ah, ça a été tout de même un long processus.
Quand même, oui.
Parce que moi, j'ai débuté avec la production, donc avec une compagnie qui d'ailleurs s'appelle encore, parce que je distribue encore, mais qui s'appelle IDI. Et donc, j'ai débuté en faisant de la production, donc des émissions traditionnelles comme Box Office, etc. Et ensuite, tranquillement, j'ai aussi créé une niche de production d'émissions sexy, etc. Et à un moment, on en produisait tellement qu'on s'est dit, on devrait peut-être faire application afin d'avoir une licence pour une chaîne. Donc, on a fait application auprès du CRTC. À ce moment-là, c'était un peu un vague projet, rien de très sérieux. Mais bon, on a quand même fait application parce que c'est pas tout le monde peut faire application. En fait, c'est pas ça c'est vraiment pas la partie compliquée, faire application pour une licence. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications de licence chaque année. Il y en a finalement très peu qui voient le jour. Donc bref, donc on a fait ça quand même. Il y a un moment, c'était en 2007 ou 2008. Et puis. En français puis en anglais, c'est un peu une question stratégique pour pas avoir d'opposition. Tout ça, ça s'est bien passé. Puis bon, finalement, on a décidé de lancer la chaîne Vanessa TV en 2010. D'abord en français puis en anglais. Encore une fois pour des raisons plus de stratégie. Et puis en 2014, donc on s'est associé avec Vivid TV, qui est une entreprise américaine de divertissement pour adultes très connue. C'est un partenariat, c'est encore nous qui détenons la licence à 100%, donc c'est vraiment juste un partenariat d'affaires, malgré le fait que souvent ça a été écrit qu'on a vendu et tout, absolument pas. Ceci dit, en 2014, pour moi, ça a été un point tournant, ça m'a permis de créer justement l'entité qui maintenant est devenue Vanessa Media, qui mise vraiment un peu sur toutes les multiplateformes. Donc moi, j'ai beaucoup développé aussi ce qu'on appelle la distribution VOD, c'est-à-dire à la pièce. au Canada et aux États-Unis, surtout parce que je fais affaire avec des partenaires européens, donc je les amène aux États-Unis. Et ça, j'avoue, ça a été vraiment une business en forte croissance. J'ai fait des 40 % d'augmentation par année, donc ça a été vraiment bien. Donc voilà, Vanessa Metzger est maintenant une espèce de parapluie qui englobe le lancement de signaux linéaires, donc de chaînes télé au Canada. On va en lancer une deuxième d'ailleurs très bientôt, que je vais annoncer très bientôt. Ooh. Et puis aussi, dans l'autre sens, la distribution sur VOD, sur toutes les multiplateformes.
Génial. Donc, on va faire un petit retour en arrière. En fait, au début, Anne-Marie Lozic, pour moi, en fait, et je pense aussi pour le grand public, c'est apparu un peu avec, dans l'univers de Musique Plus, avec oui. des émissions comme Box Office, je me souviens bien, c'était-tu ça, l'émission?
Oui.
Que tu fais? C'est-tu comme ça un peu que tu as fait tes premières dents dans l'univers du média?
Oui, absolument. Moi, j'ai débuté dans le cadre de Musique Plus. Ce n'était pas une production de Musique Plus. Par contre, on était une compagnie de production installée à Musique Plus. C'est d'ailleurs le seul cas de production comme ça. Donc, on était une compagnie indépendante, mais on utilisait toute l'infrastructure de Musique Plus. Et évidemment, l'émission était diffusée d'abord à Musique Plus, ensuite sur d'autres chaînes. Mais tout a débuté effectivement avec Box Office et qui a eu quand même 13 années de gloire et on était aussi, c'est juste que très rare de ce qui n'arrive plus maintenant, 52 semaines par année, ça veut dire absolument toutes les semaines de l'année, quand on sait que maintenant, des saisons, c'est à peine 9-10 épisodes, donc nous, c'est vraiment 52 épisodes par année.
Oui, c'est fou. C'était quand même gros aussi, je me souviens, mais comment est-ce que tu as réussi, j'essaie vraiment de repartir au début, mais comment est-ce que tu as réussi à en arriver là? Parce que c'est pas rien, tu es arrivé dans une machine qui était quand même assez grosse, Musique Plus, c'était déjà groupe, mais toi tu étais déjà, tu avais déjà ta compagnie de production, puis tu es arrivé avec Box Office, ouais, puis ils l'ont acheté?
En fait, j'avais pas de compagnie de production, ça a débuté comme ça.
Okay.
Si on veut revenir au début, j'avais fait une autre... J'avais fait une audition à Musique Plus afin, parce qu'ils recherchaient un DJ, mais pour la ville de Québec, c'était très spécifique. Et j'avais fait l'audition et j'avais été vraiment courrie. Et, disons, ça n'a pas le sens. J'aime beaucoup Québec, mais je ne connais pas particulièrement non plus la ville de Québec. Donc, je crois pas que j'étais la plus fière représentante des DJ pour ça. Mais j'avais pas été excellente, mais je dois donner à celui qui passait les auditions. Il avait remarqué que je parlais souvent de cinéma. Il semblait avoir une grande connaissance du cinéma. Et il a dit, ah, c'est drôle parce qu'on veut vraiment lancer une émission de cinéma Musique Plus. Et c'est sûr que je vais te rappeler pour ça. Oblige Vidi à Québec, mais pour l'émission cinéma, je vais te rappeler. Et là, je l'ai harcelé, les mois passaient, puis il n'y a jamais rien qui s'est passé. Alors, je me suis dit, ah ben, je sais qu'il va y avoir une émission de cinéma, donc on va la mettre sur pied, puis on va la produire. Encore une fois, c'était pas très clair dans mon esprit à ce moment-là, mais les choses se sont comme enclenchées comme ça. Et puis, on a trouvé un commanditaire. Et puis, tout a débuté comme ça avec Box Office, qui a donné lieu ensuite à plein d'autres émissions, mais ça a commencé comme ça.
C'est super intéressant. Donc, là, tu viens exactement de sortir ton côté entrepreneurial le plus fort, c'est-à-dire que tu avais une opportunité, puis tu t'es dit, je vais insister, t'as insisté, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il te remarque. C'est ça que t'as fait, finalement, pour commencer.
Ben, c'est souvent comme ça. Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, en affaires, ça c'est sûr. Il faut savoir quels sont nos objectifs, nos buts, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous représente. Mais il faut aussi savoir être assez malléable pour aller avec les opportunités. On peut pas rester borné dans sa façon de faire. Je vais juste faire les choses de telle façon, puis je vais juste lui parvenir de cette façon. Ça fonctionne pas comme ça, et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de la vie et de la business. C'est que justement, parfois la vie nous amène là où on ne pensait pas être. On m'aurait demandé il y a 20 ans si c'était ça mon grand plan d'affaires. Non, absolument pas. Donc, mais je suis très, très contente d'où je suis, puis ça représente ma personnalité. On me demande souvent pourquoi l'adulte. En fait, j'ai aucun intérêt pour l'adulte. Moi, l'intérêt que j'ai, c'est que l'adulte m'a toujours permis de rester un peu marginale, de pas être dans le, toute la folie des émissions de grande écoute qui ont tellement de pression et tout ça. Moi, j'étais un peu à part. On m'a toujours laissé faire ce que je faisais dans mon coin. Et ça représente ma personnalité. J'avais pas besoin d'aller à des meetings de ci et de ça qui m'auraient vraiment complètement ennuyée. Donc, ça va avec ma personnalité aussi, comment j'ai fait les choses et pourquoi j'ai choisi aussi certains sujets, etc. C'est plus une question de personnalité qu'autre chose.
Oui.
Mais je crois qu'en business, c'est très, très important de respecter sa personnalité.
Absolument, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Au niveau du divertissement pour adultes, corrige-moi si je me trompe, pour toi, ça a commencé, là, je veux bien insister, divertissement pour adultes. Il y a des gens qui mêlent la porno et le divertissement pour adultes. On y reviendra plus tard. Dans ton cas, est-ce que je me trompe ou ça a commencé avec Sex Shop, l'exploration du divertissement pour adultes? Sex
oui,
Shop, là, je parle de Sex Shop, bien sûr.
Oui, absolument, tu as raison. Et encore, si on veut revenir au début, j'étais au Festival de Cannes pour Box Office, d'ailleurs, et il y avait un événement en parallèle. Ça, c'était à l'époque vraiment quand l'industrie, d'ailleurs, porno était beaucoup plus glam que maintenant. Donc, il y avait un grand événement en France et là, toute la croisette s'était vidée des journalistes pour une journée et avait migré vers cet événement qui s'appelle les hot dogs. De la folie furieuse, il y avait vraiment ça c'était vraiment un peu l'âge d'or. On parle au début des années 2000, des stars de la porno, etc. Donc vraiment des méga stars en France et aux États-Unis qui étaient là dans cet univers-là. Et je m'étais dit, ce serait intéressant à explorer parce qu'il y a quand même de l'attrait. C'est tous les photographes et journalistes de Cannes se sont rués là. Et l'idée Sex Shop est vraiment, j'ai eu envie de faire un magazine un peu comme Box Office, c'était le magazine de cinéma. Je voulais faire Sex Shop, un magazine sur toute l'industrie, sur toutes les facettes que cela comportait. Donc, voilà, ça a donné lieu à Sex Shop. Puis ensuite, ça a donné lieu à plein d'autres éditions dans ce style-là. Mmh.
J'imagine que tu t'es fait quand même un réseau d'affaires un petit peu dans ce temps-là, dans le monde du divertissement pour adultes, ou je me trompe?
Tu sais, pas vraiment. Encore une fois, autant j'étais dans mon coin pour ce qui est du monde de télé, autant aussi j'étais dans mon coin pour ce qui est du monde ou du divertissement pour adultes ou pour nous. Moi, j'ai quand même... Encore une fois, je crois que ça revient à une question de personnalité. Moi, je fais plus affaire avec certaines personnes et pas vraiment avec l'industrie en général. Je me suis jamais... j'ai jamais senti que je faisais partie de l'industrie ni de la porno, ni du divertissement pour adultes. D'ailleurs, quand on me demande mon avis là-dessus, j'en ai pas particulièrement, je l'ai à niveau personnel, c'est tout. Parce que vraiment, moi, je fais plutôt les choses dans mon coin.
Oui, oui.
C'est un peu
sauvage,
finalement.
Mais tout de même, très charmante. ça a un charme, pareil, de rester dans son coin comme ça. La timidité. T'es pas une personne qu'on met beaucoup de l'avant comme une femme d'affaires. Puis là, je vais en venir un peu à un aspect marketing. Tu cherches toujours quand même à promouvoir ton image comme un peu le je pense à ton... à ton fil Instagram, ou est-ce que l'image publique d'Anne-Marie Rezek, c'est plus coquine, aguichante un peu? Où est-ce qu'elle est, Anne-Marie Rezek, la femme d'affaires au niveau PR? Pourquoi est-ce qu'on la voit pas plus souvent?
Il y a plusieurs facettes à cette question.
J'avoue, je suis partie de cette direction. Je m'excuse.
non, c'est bon. D'ailleurs, moi, vraiment, le mot femme d'affaires m'horripile un peu. Ça, je ne sens pas que c'est moi du tout. D'ailleurs, c'est Lise Oisier qui a trouvé ma solution une fois parce qu'elle voyait que j'étais tellement mal à l'aise avec ça. Elle a dit pas en fait. Et je crois qu'il a dit un peu plus tôt au cours de l'entrevue. Moi, je suis vraiment une entrepreneur, ça c'est vrai. Et j'ai cet esprit d'indépendance qui fait que je suis entrepreneur. Moi, vivre dans une ou survivre même dans le cadre d'une grosse corporation, je l'ai souvent dit, je le dis encore, je le disais récemment à des gens à Toronto cette semaine, je survivrai pas une semaine avec toute leur gigue interne et tout ça, toute la politique qu'il faut faire. Je ne supporterais pas ça une semaine. Donc, moi, c'est vraiment maître à bord de mon navire et c'est comme ça que je vais faire maîtresse. Et voilà. D'ailleurs, ça ne veut pas dire non plus, là, les mots péjoratifs, ça ne veut pas dire non plus que je suis une control freak ou rien. J'aime beaucoup l'esprit de groupe et tout. Mais au moins, je n'ai pas enduré tout ce qui va avec les grosses corporations. Bref, et toute cette espèce d'hypocrisie d'image et tout ça qui me tape. Donc, voilà pourquoi je crois que je suis une entrepreneur, mais pas tellement une femme d'affaires. Oui, j'aime l'argent dans la business, mais juste pour en avoir assez, pour avoir toute l'indépendance de choisir ce que je veux faire ou non, avoir l'indépendance de refuser ou non des projets ou des avenues. Je veux pas être coincée à être obligée de faire quelque chose dans lequel je crois pas. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, à ce niveau-là, oui, je veux faire de l'argent, mais j'en ai pas besoin plus. Puis j'ai jamais fait les choses juste pour ça non plus. Ça m'intéresse pas parce que je trouve ça très vide comme quête. Moi, j'ai besoin d'être nourrie par d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je suis pas une pure non plus femme d'affaires. Mais entrepreneur, oui, dès qu'il faut lancer un nouveau projet, comme là, je vais lancer une nouvelle chaîne, je suis très excitée par ça. Ça, c'est quelque chose qui me fait carburer.
Oui. Revenons à Vanessa Media.
Et puis, pour terminer, parce qu'il y avait tellement de passages, quant à la question d'image, Moi, j'ai pas du tout le sentiment, et d'ailleurs, ça m'agace un peu parce qu'on l'a vu beaucoup dans les médias cet automne. Les femmes ont souvent tendance à devoir se valoriser publiquement, s'assumer. On voit beaucoup d'articles qui disent « je m'assume » et tout ça. Moi, vraiment, ça, c'est pas un discours avec lequel je me sens particulièrement à l'aise. Je crois qu'on doit faire ce qu'on doit faire dans la vie. On n'a pas besoin de se prouver à personne. On doit juste se prouver ce dont on est capable à soi-même, mais pas aux autres. Ça, je trouve que c'est absolument pas nécessaire. Et voilà. Puis moi, ça me dérange pas d'être plus légère dans des posts et tout ça, parce que j'aime bien aussi... j'ai pas besoin de prouver que je travaille sans arrêt et tout ça. Ça a plus ou moins un intérêt pour les gens. Je trouve que c'est plus amusant de faire des posts comme ça. Voilà.
Intéressant. Donc, tu utilises ça, c'est juste une façon pour toi d'être créatif, finalement, que tu utilises les réseaux sociaux et non une voie communicative pour développer de la business. Ta business, tu la développes dans la vie de tous les jours. Donc, tu t'amuses avec les réseaux sociaux.
Exactement. Wow. Oui, puis je suis quand même consciente du genre de chaîne que j'ai. Et c'est sûr qu'à un moment, j'aimerais, parce que c'est sûr, j'ai des choses à dire, même politiquement, socialement, etc. Là, j'ai pas envie de mélanger les deux, j'avoue. Et je suis en train justement de me questionner comment je pourrais faire ça un jour, parce que je veux pas non plus mélanger. Je voudrais pas, par exemple, avec la politique, donner une certaine couleur à mes chaînes de droite ou de gauche, parce que je trouve que c'est pas la place pour une chaîne comme ça. Et c'est sûr qu'en étant sa présidente, son actrice porte-parole, etc., je lui donnerais une couleur. Donc, j'ai pas encore envie de faire ça. Je sais pas trop comment je vais faire ça un jour, mais c'est sûr qu'à un moment, je vais peut-être me distancer un peu plus de mon produit. Et là, changer la nature de ce que je veux communiquer.
Mm-hmm. T'étais la première femme à avoir un réseau de télé au Canada, si je me trompe pas, right?
Oui, même... on n'a jamais vraiment... C'est pas très répandu dans le monde de fonder et avoir sa propre chaîne. Mais comme je disais même avant, Oprah Winfrey, je crois qu'elle est la première dans le monde, puisqu'ils annonçaient qu'elle était la première dans le monde. Mais c'est pas une compétition, c'est pas grave, j'ai dit ça vraiment avec vous. Je m'en fous complètement.
C'est une petite note. Donc, c'est ce média, finalement, Vanessa Media, qui se voue à être du divertissement pour adultes. Et je répète, ce n'est pas de la pornographie. Et puis, vous, Vanessa Media ne produit pas, en tant que telle, du divertissement pour adultes. Elle est seulement un diffuseur. C'est ça?
Je suis diffuseur et distribution pour les plateformes, pour les productions à la pièce. Je ne produis plus. Je n'ai plus tellement envie de produire parce que je suis comme rendue pour moi à un autre niveau avec la diffusion, que je trouve très intéressant ces temps-ci parce qu'il y a tellement de... d'ailleurs, plus que la production, parce que en distribution, on deal avec toutes les nouvelles plateformes et tout ça, donc ça évolue perpétuellement. C'est un moment excitant où être. Mais par contre, je distribue des produits qui me ressemblent beaucoup et que je produirais si je produisais encore. C'est-à-dire, du produit qui est loin justement de la porno traditionnelle, qui est toujours plus ou moins la même chose, qui a comme but juste de viser le genre homme blanc de 20-40, ou je sais un peu ouais. n'importe quoi, mais juste une personne type du Midwest américain, là. Ils semblent juste viser cette personne-là présentement. Donc moi, je vais aller ailleurs. Donc je travaille d'ailleurs avec une réalisatrice suédoise qui fait vraiment du produit magnifique. On est en train de développer une série pour HBO. Donc quelque chose de très, très gros comme projet. Je viens d'y faire naissance aussi bientôt pour un autre gros réseau. Et parce qu'elle, elle fait justement ce qu'elle appelle du porno éthique d'ailleurs. Elle se bat beaucoup aussi contre le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, parce que c'est bien beau consommer consommer gratuitement, mais il faut être conscient de ce qu'on consomme. Donc, elle est beaucoup dans la tendance, le porno éthique et tout ça, faire attention, elle s'adresse aux couples. Donc, ça fait des choses très bien, d'une qualité exceptionnelle. Quand même, HBO à New York vous dit, ah, on n'a jamais vu une qualité comme ça. C'est parce qu'on est quand même dans le haut de la qualité. Travaille aussi avec un photographe norvégien qui travaille juste avec des mannequins, donc vraiment, et qui fait du 4K, donc vraiment encore un produit qui se situe très, très haut au niveau de l'échelle de qualité. Et des gens comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un produit qui, moi, me parle beaucoup, qui est une espèce de zone grise, mais qui n'existe pas vraiment, surtout aux États-Unis, et que je suis en train de développer très bien, parce qu'encore une fois, c'est une niche que je vais prendre, qui n'existe pas vraiment, donc qui est plutôt libre pour l'instant et qui s'adresse à une communauté un peu plus, disons, internationale, surtout si je parle des États-Unis. Et c'est une niche qu'ils n'ont jamais vraiment exploitée, mais qui est en croissance. Donc c'est une belle niche où être.
Mm-hmm. J'avoue. Puis ton produit, ça, Vanessa Meza, ce que vous faites, c'est très unique, parce que justement, tu marques un point, puis je voulais t'en parler au niveau de parler de la porno éthique, parce que j'avais vu un de tes articles récemment qui avait sorti par rapport à ça. Je voulais avoir plus de détails. Tu viens de m'en donner, merci. Mais c'est ça. Puis en tant que tel, tu as vendu les droits de distribution, des droits de distribution à Vivid. Est-ce que Vivid, tu n'as pas l'impression qu'ils sont un peu exactement à l'opposé, justement, ou tu les considères vraiment comme un... Ou c'est vraiment aussi un producteur similaire à Vanessa Media? Parce qu'il me semble qu'à mon impression Vivid, à ce que j'en entends parler, on entend toujours parler, bon, ils sont très forts sur les sex tapes des célébrités. Bien sûr, je pense tout de suite à Kim Kardashian quand on entend parler. Truc de même. Est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires avec Vanessa Media, ou tu as seulement vu une belle opportunité d'affaires, donc tu t'es dit « go for it »
Ben, en fait, j'ai vendu aucun droit de distribution. C'est vraiment un partenariat d'affaires. En fait, ça a été, excusez-moi, en bon français, un rebranding de Vanessa TV, le signal, la chaîne. Pour Vivid TV, nous, évidemment, c'est une licence canadienne. Donc, on fournit encore toute la partie canadienne, 20-25% de produits canadiens. Eux fournissent le reste. Donc, c'est vraiment un partenariat d'affaires. Je trouvais que c'était important d'être associé avec un gros joueur sur l'échiquier mondial, parce que d'abord, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et puis, ça m'a permis, encore une fois, c'est ça, depuis 2014, de développer tout un autre volet. Donc, justement, de développer des séries avec HBO et tout, que j'aurais jamais eu le temps de faire si j'avais pas été associé avec un gros joueur. Et d'ailleurs, la deuxième chaîne que je vais lancer aussi au Canada, et c'est aussi une association avec un méga gros joueur. J'ai très hâte de l'annoncer. Ceci étant dit, il faut comprendre aussi que là, si on parle de l'univers strictement de la porno, Vivid a eu un modèle très intéressant. Ça a été les premiers, peut-être aussi avec Marc Dorcel et Calmax en Europe, mais aux États-Unis, ça a été les premiers. Ils se sont basés sur les studios, sur le modèle des studios américains pour bâtir des stars. Donc, vraiment, avec le même concept, ils ont signé des stars. On parle de, à l'époque, au début des années 2000. Donc, ils ont eu une démarche très intéressante. Malheureusement, c'est sûr que tout ce système-là s'est un peu écroulé avec l'arrivée de toute la gratuité sur Internet. Et ça a fait que toutes ces compagnies-là, finalement, maintenant, sont plus ou moins la même chose, c'est-à-dire des espèces de compilations avec des mots-clés. Bon, je ne veux pas aller dans les mots-clés, mais
c'est
très simple, un peu comme sur Internet. Et c'est dommage, ça ça a un peu éradiqué toute diversité ou variété. Mais là, on y revient. On a été full circle, encore une fois, comme on dit en français. On a fait le rond complet ou le cercle ou la ronde au complet. Et là, on revient à avoir une plus grande diversité de contenu. Ou en fait, les opérateurs télé certainement recherchent ça maintenant, ce qu'ils recherchaient peut-être pas il y a un an ou deux. Et puis, je crois qu'il faut l'avoir le discours aussi de ce que je disais, de consommer du porno de façon responsable. Il faut aussi quand même être responsable que quand on regarde quelque chose gratuitement et que personne n'a rien à devoir à personne, qu'il y a de l'exploitation, que ça peut être fait avec de l'esclavagisme sexuel, que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mineurs. Je veux dire, quand on fait affaire avec les opérateurs TV et qu'on regarde au Canada et aux États-Unis, au Canada, on est régi aussi par le CRTC, il y a des règles, il y a des normes, et moi, je suis pour ça, il faut que ce soit encadré. On doit garantir, on doit apporter des preuves que les gens sont majeurs, qu'il n'y a pas eu d'exploitation, etc. Donc, je crois que c'est important, et les gens qui consomment, ils ne peuvent pas plaider à l'innocence maintenant en 2016, c'est pas vrai, on est tous au courant de ça. Donc, eux aussi doivent de faire attention aussi comment ils consomment, comme pour tout le reste d'ailleurs. Je veux dire, on doit être conscient de tout ça. Donc, bref, je crois que c'est pour ça que aussi Internet, cette espèce de modèle d'affaires arrive à une fin aussi parce qu'ils vont être redevables sur leur diffusion sur Internet parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de compte à donner à personne, même s'ils exploitaient ou du contenu ou des personnes. Mais là, on arrive à une fin, finalement, une fin de cycle.
Ah,
et ça, moi, j'en suis très contente parce que juste pour des questions, finalement, d'éthique et de principe.
Allô? Oui.
Allô? Est-ce que ça a comme coupé?
Ça a coupé, ouais.
Oui. Oui, excuse-moi.
J'ai eu peur. OK. Donc, tu disais pour des questions d'éthique, on voit un retour du balancier présentement par rapport au contenu.
Oui, absolument. Et ben moi, je m'en réjouis, comme j'ai dit, pour des questions aussi de principes et d'éthique. On peut parler de l'évolution de la femme et tout ça, mais si on a encore des cas d'exploitation comme ça, et des gens qui le consomment en sachant maintenant en 2016 qu'il y a de l'exploitation, excusez-moi, là, il y a un moment, le discours ne fonctionne plus.
Super intéressant. Tu mets beaucoup ta carrière, est-ce que je peux voir, en avant de tout. Est-ce que tu prends aussi beaucoup de temps pour toi, pour t'amuser, pour avoir du plaisir, ou ton plaisir, tu le prends vraiment dans ton travail?
C'est sûr que ma carrière prend énormément de temps et pour l'instant, je suis dans une période assez excitante de ma vie côté carrière. Donc, ça prend plus ou moins tout mon temps.
Ouais.
C'est ça, c'est difficile dans la vie. Rien n'est parfait. Oui, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour moi. Mais bon, je vais pas non plus me plaindre parce que tout va très bien. Les affaires sont en feu. Donc, c'est le temps aussi de battre le fer. Je peux pas me dire, oh non, tout le monde, j'ai plein d'opportunités. Maintenant, je vais mettre ça de côté pendant un an puis je vais partir en voler autour du monde. Je pourrais le faire. Il n'y a pas de problème. Mais je peux pas m'attendre à ce que tout m'attende dans un an. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai travaillé tellement pour arriver là, pour justement des portes s'ouvrent sur plusieurs opportunités. Donc, après, c'est un moment où je travaille beaucoup plus que je ne l'avais anticipé. Mais c'est bien, moi, encore une fois, ça revient un peu à une personnalité. Moi, j'adore mon travail. Je me considère choyée d'avoir pu faire ce que j'ai fait, privilégiée. Donc oui, j'ai énormément de plaisir. Ça m'apporte énormément de plaisir, mon travail. Et puis j'aime ça. Moi, j'adore faire des meetings, convaincre les gens de faire ça ou prendre ça. Là, je développe beaucoup le côté américain. Donc, c'est nouveau pour moi. Donc, c'est excitant. Donc j'aime beaucoup ça.
Good. C'est super. C'est important, je pense, de toute façon. Je pense qu'habituellement, quand on est entrepreneur, on a tendance à faire aussi beaucoup de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait, puis c'est notre vie. Donc tu le vis, puis tu. En fait, je le ressens dans ta personnalité, puis dans ta voix. C'est ça, tu as l'air d'avoir du plaisir. Mais par contre, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des hauts et des bas. Est-ce que tu pourrais me partager, en fait, qu'est-ce que tu considérais comme étant ton pire moment entrepreneurial à ce jour?
Oui, ça. D'ailleurs, j'avais déjà mentionné. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que souvent, quand on accorde des entrevues, c'est dans le cadre de quelque chose de nouveau, de nouvelles promotions, donc tout va bien et on est toujours très heureux. Mais il y a toujours des moments plus difficiles où à ce moment-là, peut-être on en parle moins. Donc, je trouve que c'est important parce que les affaires, c'est ça. Et même si c'est un de mes pires moments, je ne changerais pour rien au monde parce que ça a mené à aujourd'hui et puis... Et puis, finalement, je ne changerai rien, même si ça a été une période difficile. Moi, c'est sûr que quand j'ai lancé Vanessa TV, encore une fois, c'est un peu de naïveté. Peut-être sinon, je ne l'aurais pas lancé si j'avais su tout ce qui arriverait. Mais je me suis entourée à ce moment-là de gens avec une expérience extraordinaire, ce qui était très bien. C'était la chose logique à faire. Mais il faut comprendre que quand on fait une chaîne pour adultes, c'est pas comme TVA ou je sais pas, je dis juste cette chaîne-là, ou comme le lancement d'une autre chaîne, c'est quand même particulier. On est dans un monde très 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 réglementé dans le cadre des opérateurs TV, mais on traite quand même d'un sujet un peu plus olé-olé. Donc on est dans une espèce de zone grise. Donc, on peut pas vraiment lancer cette chaîne-là d'une même façon qu'une chaîne traditionnelle. Donc, bref, donc je me suis entourée de beaucoup de gens qui venaient plus de la télé traditionnelle et ça a été peut-être une erreur. J'ai fait avec des bonnes intentions parce que je me disais que je connaissais pas ce monde-là. Mais bon, finalement, ça a été une erreur. J'ai aussi fait l'erreur de penser que c'était la continuation de ma compagnie de production. Et puis, la production et la diffusion, c'est deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. Mm-hmm. Donc là aussi, ça a été aussi un réveil assez brutal. Donc, il y a eu une année ou deux de transition très, très, très difficile. Moi aussi, j'ai des grands changements dans ma vie personnelle. Donc, ça a été des énormes bouleversements. Et à un moment, j'ai dû, la façon dont je le dis, c'est pas gentil, mais c'est un peu ça, balancer tout le monde, évacuer tout le monde. Et j'ai presque recommencé toute seule. Je me suis montée les manches, j'ai dit, bon, j'oublie tous mes week-ends pour la prochaine année, puis toutes mes nuits et tout. Et c'est la seule façon de trouver ma compagnie. Et puis, je devais tout réapprendre à zéro d'une certaine façon, vraiment me relever les manches et tout, réapprendre toutes les facettes ou tout apprendre toutes les facettes parce qu'en fait, la diffusion, je ne connaissais pas ça. Donc, c'est ce que j'ai fait et à partir de là, j'ai pu bâtir, mais j'avoue que ça a été une ou deux années très difficiles.
Donc, tu as réussi à te retrouver les manches.
Mais maintenant, je veux dire, je peux parler de n'importe quel aspect de la diffusion. Je connais absolument tout, donc ça me donne aussi une grande force maintenant.
Exact. Donc, tu as réussi à prendre cette expérience-là et à devenir plus forte grâce à ça. Donc, félicitations.
Mais c'est très difficile. Oui, c'est très difficile parce que en production, j'étais rendue quand même assez en haut de la pyramide, disons que tout était. Donc, ça a été comme une chute assez vertigineuse. Et c'est bien pour l'humilité, ça fait tout remettre en perspective.
Oui. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où est-ce que tu as eu une sorte d'épiphanie, où est-ce qu'il y a quelque chose qui a tout changé, ta perception? J'aime ça appeler ce moment-là le « ha-ha moment », où est-ce que tu as une illumination, puis il y a quelque chose, un déclic qui fait, puis ça change un peu ta perspective?
Il y a eu quand même quelques moments. Je crois que quand j'ai débuté Box Office, c'était très, très fragile. C'était juste une émission. On dépendait à ce moment-là que d'un diffuseur. Donc, si lui décidait qu'il ne renouvelait pas l'année suivante, ce qui aurait très bien pu arriver. Sans doute, je ne sais pas si j'aurais pu continuer à produire ou si j'aurais continué à produire. Donc, c'est très fragile. C'est un moment de grande fragilité dans ma carrière. Et à partir du moment où on a acheté des diffuseurs, on a acheté des émissions, je me rappelle, parce que à ce moment-là, ça se passait souvent au mois de mars, les renouvellements, etc. C'est plus le cas maintenant. Mais je m'étais dit une fois, je me rappelle, il y a eu un déclic peut-être autour de 2000, où on avait tellement de production que s'il y en avait une ou deux qui n'étaient pas renouvelées, ça n'avait aucune conséquence. C'était assuré que c'était le chemin que j'allais poursuivre. Et j'avoue que ça a été un très bon sentiment d'une certaine façon. Parce que là, je savais que j'étais installée puis que là, je pouvais vraiment grandir sans à chaque année me demander est-ce que je vais faire ça l'an prochain ou non. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais ça.
Oui, enfin,
si on parle déclic, pour moi, ça a été un déclic.
Quelque chose qui a changé. Non, c'est parfait. Tu réponds absolument bien à ma question.
Excuse-moi, ben, pas pour toujours interrompre, mais c'est aussi un peu ce qui s'est passé quand je me suis associée avec David plus récemment en 2014. Comme je le disais tout à l'heure, m'associer avec un gros aussi m'a assuré un peu la pérennité dans le sens que je peux aussi me concentrer à faire d'autres choses. Donc, varier la business, c'est très important, surtout de nos jours, varier, puis même quand on est une personne, être le plus versatile possible, parce que c'est ce qui assure un peu le futur. Comme ça, si quelque chose fonctionne moins, ou une plateforme arrête de fonctionner, on se tourne vers l'autre ou une autre façon de diffuser. Donc, tout ça, c'est important, la diversité. Donc, ça m'a permis aussi, jusqu'à présent, dans le cadre de ma chaîne, j'étais très fragile jusqu'en 2014. Et là, je me sens que quoi qu'il arrive, ça va continuer d'une façon ou d'une autre.
Est-ce que tu pourrais me partager, en fait, ce qui pourrait être ta plus grande faiblesse en tant qu'entrepreneur?
Je vois vraiment pas la vie comme ça. Ça, c'est devoir y penser.
ou mettons ton maillon le plus faible en tant que gestionnaire ou quelque chose.
C'est sûr, moi je suis très, très, très passionnée. Ça s'est calmé un peu parce que j'ai essayé de le calmer parce que il faut faire attention avec la passion. C'est bien être passionné, mais il faut pas être... Dans les rendez-vous d'affaires et tout ça, c'est bien que les gens sentent que vous êtes passionné. Les gens aiment toujours ça, ils sont très rafraîchissants et tout ça. Il y a tellement de gens blasés. Mais il faut savoir doser ça. Il peut être trop passionné, surtout quand les choses vont moins bien. Des fois, la passion peut devenir émotive. Et ça, l'émotion, là. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que j'ai toujours dit à mes employés. L'émotion a aucune place, malheureusement, dans les affaires. Ça, c'est une chose, on garde ça dans le privé. On va aux toilettes pleurer s'il faut. Mais sur le lieu du travail, ça n'a pas sa place. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis encore fait prendre récemment avec un meeting. Il y a un conflit de personnalité, etc. Et je veux pas aller trop dans les détails à Toronto avec une femme. Et ça me dérange profondément. Et j'ai fait un meeting où j'étais à la limite un peu émotive. Et ça, c'est vraiment pas mon style. C'est très déçu de moi. Donc ça, c'est... Donc ma passion, c'est juste parce que tout le monde m'a dit, mais tu devrais t'en foutre, c'est pas grave. Mais quand on est entrepreneur, on veut ce contrat-là aussi. Puis quand on sent que c'est injuste. Bref. Donc, des fois, la passion, il faut que je fasse attention qu'elle prenne pas le dessus. Et puis, je dirais aussi une de mes grandes faiblesses au début, mais ça, j'ai appris à gérer ça, je n'étais pas habituée, c'est dans ma relation avec les employés, parce que moi, j'ai une tendance à être assez... C'est vrai que sur les lieux de travail, à être assez dur. Ça, j'ai appris aussi à m'assouplir un peu. Pas être dur, mais être direct. Et je me suis rendu compte que souvent, les gens ont des problèmes avec ça. C'est juste pour une question, je veux pas perdre le temps à personne, puis je dis ce qu'il y a à dire. Mais je sais que parfois, j'ai été trop direct, j'ai blessé des gens, j'ai appris à enrober un peu plus. Donc, au début, ça a été quelque chose que j'ai dit, plus un apprentissage qu'une faiblesse, mais ça a été un apprentissage quand même.
OK. Et à l'opposé, est-ce que tu pourrais me faire part de ta plus grande force? Ou tu l'as peut-être...
Ça reste assez drôle. Nos faiblesses sont nos forces, nos défauts sont nos qualités. La passion reste quand même ma force parce que c'est ce qui fait que je suis toujours excitée comme au premier jour. Puis ça prend ça parce que c'est vrai que dans les affaires, on en parle, puis tout d'un coup, comme là, je vais lancer une deuxième chaîne, mais dans les faits, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, que j'ai meeting après meeting, que je vais presque chaque mois à Toronto pour ça. Je veux dire, ça a été frustrant, ça a été long, ça a été... mais c'est bien un peu grâce à la passion que ça reste vivant, puis que je persiste, puis que j'avais encore envie de la lancer, puis finalement, j'ai encore la lancer. Si j'avais pas eu la passion, j'aurais peut-être abandonné ça... 3 mois ou 1 an après. Donc, ça reste aussi ma force, je crois.
Oui, exactement. C'est bon. Excellente réponse. Est-ce que... Donc, vraiment, ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus en ce moment? Mais je pense que vraiment, qu'est-ce qui t'inspire le plus, c'est qu'est-ce qui s'en vient que tu ne peux pas nous parler, right?
Voilà! Exactement.
Donc, je vais passer à la prochaine question. est-ce qu'il y a quelque chose qui te freinait avant de devenir entrepreneur?
Non. Ça, pas du tout. J'aurais peut-être dit avoir quelques freins, mais pas du tout. Ça, moi, je plonge toujours. Mais ça aussi, c'est une question de personnalité. Je suis comme ça aussi. Quand je pars en voyage, je pense en voyage. J'ai toujours cette espèce d'enthousiasme complètement fou. Même pour l'ouverture d'un nouveau restaurant, je suis comme ça. Je suis dans un enthousiasme débordant. Je ne sais pas pourquoi, okay. Mais je suis comme ça. Dès que c'est quelque chose de nouveau, moi, je plonge. Et dès que j'ai un nouveau projet, c'est la même chose. Je plonge et je règle tout ce qui est à régler au fur et à mesure. C'est un peu de naïveté. J'imagine que je garde toujours un peu de naïveté. Très honnêtement, quand j'ai lancé Box Office, je savais pas du tout ce que je faisais. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. On débutait ça avec le Festival de Cannes, donc un truc super majeur, fou. Mais ensuite, moi, j'avais aucune idée de ce que ça prenait pour monter une émission et tout ça. En tout cas, on a passé des nuits blanches et des nuits blanches avant la première diffusion. Mais si j'avais pensé à tous les problèmes, etc. Mais on peut pas vraiment les anticiper. Parfois, on pense qu'il y aura des problèmes. C'est pas ceux-là qui surgissent. C'est d'autres problèmes qu'on n'avait pas anticipés. C'est très difficile de toute façon essayer de tout régir le futur. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Si les gens avaient la recette, on ferait tous la même chose, mais personne n'a la recette magique. Donc c'est très difficile. On peut anticiper une certaine partie, mais pas tout. Donc, mais c'est sûr que moi j'ai tendance à juste plonger, puis à partir du moment où j'ai le feu vert, et puis on verra bien.
Super. Est-ce que tu peux tu en as sûrement reçu beaucoup, mais j'aimerais ça que tu me partages ce que tu considères comme étant le meilleur conseil que tu as reçu.
Les conseils, je trouve ça très délicat. Et de ma part, afin d'en donner. Parce que les conseils s'appliquent à nous-mêmes, ça s'applique pas nécessairement à une autre personne, parce qu'on a tous... On réagit tous de façon différente dépendant de notre personnalité. Et moi, des conseils, je ne peux pas dire que j'en ai cherché particulièrement. J'ai peut-être pensé que quelqu'un m'a déjà donné... On m'a parfois fait des conseils que j'ai repoussés. Donc ça m'a peut-être aidé. Je me rappelle... au début de Box Office, justement, Pierre Martin, qui était à Musique Plus, d'ailleurs, qui m'aimait beaucoup, c'était pas méchant ce qu'il avait dit, m'était complètement horripilé parce que je faisais des présentations en mini-jupe avec mon sac à main à la main au milieu de la rue, parce que sur la vitre, puis il disait, voyons, personne va te prendre sérieusement et tout. Et puis dans ma tête, juste le fait qu'il dit ça, comme j'aime bien être contradictoire, je m'étais dit, ben tiens-toi, tu vas en voir beaucoup plus comme ça. parce que c'est pas ça qui est important. Pendant ce temps-là, j'ai obtenu une des plus grandes entrevues, c'est ça qui est important, le reste, on s'en fout. Donc ça m'a un peu confortée dans ma façon d'être, mais c'est plus des quand on m'a donné des conseils, c'est plus j'ai plus suivi le contraire.
Ah, intéressant.
Mais vous savez, même dans la vie, je vais vous dire le meilleur conseil, et c'est pas appliqué à moi, et ça c'est pas appliqué dans le cas de la business, mais je crois que ça s'applique dans la vie de tous les jours, ce qui veut dire dans notre business aussi. C'est un docteur qui avait dit à un ami qui suivait un régime, il dit jamais à personne que tu suis un régime parce que tout le monde va dire, mais non, t'en as pas besoin, voyons, nanana, nanana. Les gens veulent pas toujours le meilleur pour vous, il faut pas oublier non plus le spécimen. Donc, faites ce que vous devez faire, suivez votre chemin, et puis voilà, ça c'est mon conseil.
super, génial. Anne-Marie, je ne tartinerai pas pour trop plus longtemps. Juste avant de terminer, je veux juste, premièrement, te remercier, bien sûr, d'avoir participé à mon émission. Tu fais partie, pour moi, je t'ai demandé de donner à mon émission parce que tu fais partie, pour moi, des personnes qui sont très inspirantes, qui n'ont pas peur, finalement, de foncer le droit pour obtenir ce qu'ils veulent, qui bâtissent des projets qui sont plus grands qu'eux-mêmes. Puis, pour moi, en fait, des personnes comme toi, ça fait qu'il y en a d'autres qui peuvent s'inspirer puis peuvent vouloir aspirer à meilleur que ce qu'ils ont présentement. Donc, félicitations. Puis, je te remercie beaucoup, beaucoup pour le travail que tu fais.
Donc, merci, c'est tellement gentil, merci.
Ça fait plaisir. Je ne veux pas être redondant, mais si si un entrepreneur venait te voir et puis tu aurais à lui donner seulement 3 petits conseils, quels seraient-ils pour se lancer en affaires?
Moi, je dirais qu'il faut qu'il soit plus sûr de lui, parce que si je veux chanter en affaires, il n'y a pas besoin de demander conseil. Voilà justement où je veux en venir.
Avec j'adore ta réponse, c'est parfait. C'est bon.
Bon, ce sera la conclusion, alors.
Je pense qu'on va arrêter ça, là. C'est trop parfait. Donc, je pense que l'entrepreneur ne devrait pas me donner de conseils puis se lancer parce que ça s'arrête là. Anne-Marie, sur ce, en fait, je te remercie. Je te souhaite le meilleur des succès pour ton gros projet qui s'en vient.
Ah, merci. Ça me fait très plaisir. Et bon succès à toi aussi.
Merci, Anne-Marie. Bye-bye.
Bye.
Et voilà, c'est aussi simple que ça. Cherchez pas l'approbation de personne pour vous lancer. Donnez-vous l'approbation à vous-même. Pas plus compliqué que ça, Anne-Marie résume par ses mots et ses actions l'incarnation la plus complète de ce que devrait être un entrepreneur. Avec un peu de naïveté, faut laisser ses craintes et ses incertitudes de côté, puis foncer sans regarder en arrière. Bien sûr, faut aussi être conscient des risques qui viennent avec nos choix, mais c'est à vous de calculer ces risques. Encore une fois, j'aimerais vous remercier d'être au rendez-vous. Chaque semaine, à mesure que l'auditoire s'agrandit, mon enthousiasme suit la même tendance. Je vous invite à me suivre, si ce n'est pas déjà fait, sur ma page Facebook, m'envoyer vos commentaires et suggestions. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon site web à l'adresse lesaintpierre.com et bien sûr, Instagram, Twitter, Snapchat, comme ça vous plaît. D'ici à la semaine prochaine, restez connectés sur vos passions, gardez le cœur et les yeux grands ouverts parce que c'est la seule façon de ne pas manquer sa cible. Ciao!